Bonsoir. Leur parti accumule les défaites, leur président avoue son impuissance et leur dernier conseiller fédéral déçoit. À 6 mois des élections fédérales, qu'est-ce qui fait encore rêver les jeunes libéraux radicaux? Ils étaient en congrès aujourd'hui, ont-ils préparé la réforme du futur ou se confortent-ils dans une douce continuité? Parole ce soir à ceux qui feront le PLR de demain. Brenda Meder, leur jeune présidente, accompagnée de Yana Maël Aubert, dès 18h20. En ouverture de ce forum, on se rend à Fribourg, rejoint notre correspondant Pierre Berset. La ville vient de décider à l'instant de la répartition de ses 5 dicastères. Quel sort réservé aux 2 nouveaux du gouvernement, la libérale radicale Antoinette Devecq et le socialiste Thierry Steyert? Réponse dans quelques secondes. En Libye, les combats sont violents aujourd'hui. Ce diable de Kadhafi semble disposer de toutes les ressources nécessaires pour résister aux insurgés et à l'OTAN. Des rumeurs de soutien de certains pays circulent. Qui aide militairement le colonel Kadhafi? Qui lui fournit les armes à sous-munitions qu'il aurait utilisées aujourd'hui? L'éclairage de notre spécialiste militaire Alexandre Vautravers dans quelques minutes. Cuba revêt son uniforme révolutionnaire le temps de son congrès du Parti communiste. Malgré tout le faste, les centaines de milliers de personnes dans les rues de la Havane, les défilés militaires en grande pompe, eh bien, cet uniforme castriste paraît bien démodé. Pour autant, pas de soulèvement, pas de printemps cubain en perspective, c'est ce que nous dit Jacobo Machover. Il est dissident cubain et pour lui, c'est plutôt une évolution à la chinoise qui se dessine à Cuba. Reste à savoir avec qui au pouvoir après les Castro. Jacobo Machover à 18h15. À 18h35, le journal des sports de Forum avec Romain Rosang. On y parlera volleyball. Le titre de champion suisse se dispute à l'instant. On parlera du FC Sion aussi qui affronte Zurich depuis un quart d'heure pour une place européenne. Juste avant, on recevra Raphaël Epoli, sociologue du sport, pour parler non pas de Sion-Zurich, mais de ces incontournables affiches qui font vibrer la planète foot à échelle mondiale. En Angleterre, on retient son souffle pour le derby Manchester United contre Manchester City à Wembley, tandis qu'en Espagne, El Clásico, Real Madrid contre Barcelone, c'est l'affiche la plus visionnée au monde. Qu'est-ce qui fait le mythe, la dramaturgie de ces rencontres? En pleine austérité économique, le foot est-il plus que jamais l'opium du peuple? Rendez-vous à 18h30. Et enfin, comme tous les samedis à 18h45, vous retrouverez la revue de presse de l'actualité francophone. Météo, le mercure descendra assez bas durant la nuit, il fera donc frais au réveil, mais le soleil fera remonter les températures jusqu'à 17 voire 20 degrés demain après-midi. Beau temps partout en Suisse, la météo complète d'Éric Fauchère à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun.
En ville de Fribourg, comme dans la plupart des communes du canton, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu les cérémonies d'assermentation des élus. Prestation de serment suivie de la séance, à huis clos bien sûr, séance parfois délicate d'ailleurs, de l'attribution des départements, dénommés ici dicastères. Alors les regards se tournent bien sûr vers la capitale, la ville de Fribourg, à majorité de gauche. Cette ville qui compte 2 nouveaux membres, le socialiste Thierry Steyert et la libérale radicale Antoinette Devecq. Pierre Berset, vous êtes notre correspondant sur place. Pas de surprise dans cette redistribution qui vient de se décider, des dicastères?
Pas de surprise, pas de remue-ménage. Même si on aurait aimé voir arriver quelques surprises, Antoinette Devecq ne dirigera pas la circulation ni la mobilité en ville, pas plus que Thierry Steyert ne s'occupera des finances de la cité. Les 3 anciens, à quelques détails près, conservent leurs postes et leurs attributions. Cela signifie que le syndic Pierre-Alain Clément continuera de s'occuper de l'administration générale et de l'informatique, que le vice-syndic, le PDC Jean Bourgnecht, reste dans son fauteuil de l'édilité et des constructions, amputé des sports. Or, c'est vrai, en échange des affaires bourgeoisiales. Quant à la chrétienne sociale Madeleine Genoupage, elle subsiste à la tête des finances. Les 3 anciens sont servis. Il reste donc aux deux nouveaux de prendre les 2 directions vacantes. Antoinette Devecq, la radicale et avocate, hérite des écoles, du service social et des tutelles. Enfin, Thierry Steyert, socialiste, avocat lui aussi, et ancien secrétaire général du département cantonal de justice et de la sécurité, va reprendre la police locale, la mobilité, enrichie des sports. En fait, c'est une répartition qui ne fait pas de vagues, qui bétonne les acquis pour les personnes en place et qui, promesse de syndic, devrait permettre à l'exécutif de fonctionner avec une collégialité accrue.
Pierre Berset, en direct de Fribourg, je vous remercie. Thierry Steyert, bonsoir. Thierry Steyert, vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Bonsoir monsieur, vous êtes l'un des nouveaux membres de ce conseil communal socialiste. Votre réaction à cette redistribution, on pourrait résumer les choses, les anciens gardent leur poste, les miettes pour les 2 nouveaux?
Non, je crois pas qu'on peut résumer ça comme ça. ce ne sont pas des miettes que j'ai héritées. Je suis tout à fait content de pouvoir maintenant m'occuper de la mobilité, notamment des sports. Et ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que je vais aussi m'occuper des services industriels. Ce qui est aussi un service intéressant. Donc non, en gros, je suis tout à fait content et je me réjouis de pouvoir prendre ces nouvelles fonctions.
Oui, quand je dis les miettes, Thierry Steyaert, vous me comprenez, ça veut dire que vous avez vraisemblablement pas eu tellement de choix. On sait que ce sont les anciens qui décident d'abord s'ils veulent conserver ou non leur dicaster, et puis voilà, vous devez prendre ce qui reste. C'est comme ça que ça s'est passé ?
Non, je crois. De toute façon, il est clair qu'on ne va pas divulguer les discussions menées au sein du conseil communal cet après-midi. Mais je crois que c'est un peu un raccourci quand même. Bien sûr, le résultat, c'est celui-là. Les anciens gardent plus ou moins leur dicaster. Mais quand même, si on prend l'activité qui est amputée, entre guillemets, des sports et des services industriels, et qui reprend par contre la bourgeoisie, il y a quand même eu des changements qui sont plus que des mini-modifications.
Thierry Steyaert, vous dites content de vous occuper de la police communale. Bon, vous êtes secrétaire général du département jusqu'à là, donc au niveau cantonal, de justice et police. Donc effectivement, ça reste dans le même domaine, ça reste pas au même niveau. Vous revenez plutôt à du terre-à-terre, à du terrain en quelque sorte. Vous dites satisfait, bah, tant mieux pour vous. Est-ce qu'on peut en dire de même pour Madame Devecq? On se dit, bah tiens, avocate, juriste, elle s'occupe des écoles. Est-ce que vraiment on rentabilise ses compétences, vous trouvez?
Ah bon, je n'ai pas à m'exprimer sur ce que ressent Madame Devecq ou sur le choix de lui attribuer la direction des affaires sociales et des écoles, mais je suis convaincu que, vu aussi le caractère assez harmonieux des discussions que nous avons aujourd'hui et aussi des compétences de Madame Devecq, je suis convaincu que tout va très bien se passer de son côté également.
Donc la collégialité qui a été vantée aujourd'hui, elle est réelle? Vous êtes confiant?
Je suis convaincu, tout à fait.
Je vous remercie, Thierry Steyaert, d'avoir commenté dans Forum cette redistribution des dicastères en ville de Fribourg. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
En Libye, les affrontements sont poursuivis à Misrata, grande ville côtière de l'ouest du pays, où les insurgés résistent à ce qui s'apparente à un vrai siège. Plus à l'est, toujours le long de la côte, on se bat également dans la région d'Ajdabiya, où des tirs de roquettes ont fait plusieurs morts de sources hospitalières. Et selon un habitant de Misrata, cité notamment par l'AFP, c'est un véritable déluge d'obus qui s'est abattu sur la ville la nuit dernière. Certaines sources font état de l'utilisation par les forces de Kadhafi de bombes à sous-munitions. Alexandre Vautravers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un peu notre spécialiste militaire, Alexandre Vautravers. Vous êtes en tous les cas rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Je vous remercie d'être avec nous en direct ici. Tout d'abord, ces bombes à sous-munitions, elles font toujours craindre le pire. D'ailleurs, vous nous confirmez d'abord, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes militaires, que ces armes-là sont particulièrement dangereuses.
Particulièrement dangereuse, pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ces armes dans la mesure où effectivement elles ont des effets qui sont 4 fois plus importantes que des munitions classiques d'artillerie.
Alors Alexandre Travers, ces armes on peut les construire, on peut les stocker, mais on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les vendre. Alors comment ce diable de Kadhafi s'est procuré ces armes?
Voilà, il y a eu une longue discussion au sujet de ces munitions à sous-munitions puisqu'elles ont été développées à la fin des années 1960 pendant la guerre froide, pendant la guerre du Vietnam, et en fait elles ont servi essentiellement à remplacer le napalm pour traiter des buts de surface des adversaires qui seraient retranchés dans des zones très difficiles d'accès. On pense évidemment à la jungle vietnamienne à l'époque, et puis aussi pour détruire des adversaires qui pourraient être en train de se déplacer dans des véhicules blindés. Donc ce sont des armes très polyvalentes, très efficaces, et donc on peut comprendre que la volonté de la communauté internationale de limiter l'accès à ces armes a été très difficile puisque la plupart des pays ont renaclé à s'en séparer. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un traité, c'est le traité de Dublin qui a été signé en 2008, qui donc fonctionne sur le principe du volontariat, c'est-à-dire que les États choisissent ou non de faire partie de ce traité et se limitent eux-mêmes dans leur choix d'acquérir, de posséder, voire même d'utiliser ces armes.
Elles viennent d'où, celles que Kadhafi utilise aujourd'hui?
Alors les munitions qui auraient été vues, au moins 3 de ces obus ou de ces bombes, qui auraient été vues par une organisation organisation non gouvernementale Human Rights Watch et qui aurait été photographiée par le New York Times. Il s'agirait de munitions de 120 mm cargo, donc de munitions à sous-munitions, qui ont été fabriquées en 2007 en Espagne, c'est-à-dire un an avant que l'Espagne signe le traité de Dublin.
Mais donc, elle les aurait confectionnées un an avant d'avoir traité, d'avoir ratifié ce traité de Dublin. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle les aurait forcément vendues avant ? Ou quel contrôle il y a sur la vente de ces armes ?
Alors, malheureusement, il est assez difficile de tracer véritablement l'itinéraire de ces armes, puisque ce sont des choses, comme on vient de le dire, qui sont assez puissantes, assez performantes. On peut imaginer que certains pays qui, à certaines époques, remplissait toutes les conditions au sens du droit international pour acquérir et posséder ces armes, peut-être ont vécu un changement de régime. Et puis vous avez vu que ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de pays ont changé de situation et donc très certainement certaines de ces armes et de ces munitions sont perdues dans la nature. Il n'y a pas d'ailleurs que les armes ou les munitions à sous-munitions qui posent problème actuellement en Libye, puisque la Libye possédait avant l'insurrection avant la guerre, plus d'un millier de ces missiles anti-aériens. Aujourd'hui, on n'est plus très sûr de savoir finalement où ces missiles sont en train de se retrouver.
Oui, donc Kadhafi avait de bonnes ressources au préalable, avant que n'éclate la guerre ce dernier mois. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'il y a des rumeurs, Alexandre Travers, le Conseil de transition libyen a accusé publiquement l'Algérie de soutenir militairement Kadhafi. Qu'est-ce qu'on en sait sur les soutiens militaires, vraisemblablement sous la table, dont bénéficie Kadhafi aujourd'hui en pleine guerre ?
Alors, est-ce que c'est l'Algérie, sous-entendu le gouvernement algérien, ou est-ce que c'est des personnes qui se trouveraient en Algérie, des personnes qui font des affaires en Algérie ? Ça ne veut finalement pas dire grand-chose. Ce qu'on peut constater sur les images que l'on constate pratiquement quotidiennement, c'est tout de même un certain nombre d'armements qui viennent de très loin, puisque un des missiles, une des armes qui a fait son apparition lors de cette insurrection il y a 3 semaines, c'est un missile anti-aérien, le SA-24, qui est une arme qui a été exportée par la Russie seulement à quelques pays, et en particulier le Venezuela. Donc c'est très embarrassant.
Ça, c'est un ami du colonel Kadhafi.
Alors il faudrait savoir, est-ce que effectivement le Venezuela est un ami ou est-ce que c'est un médiateur, puisque le Venezuela s'est proposé dans le cadre d'une mission de médiation pour la paix. Donc ça pose effectivement beaucoup de questions.
Mais quand on croyait le colonel Kadhafi complètement isolé, c'est pas tant le cas, Alexandre Travers.
Bon, il y a toujours des gens qui seront par appât du gain intéressés de vendre des armes. Mais je crois surtout, le plus important, ce que vous avez dit au début, c'est la situation à Misrata qui est préoccupante, puisqu'il s'agit maintenant d'un combat qui est en train de s'enliser. C'est-à-dire que ni d'un côté ni de l'autre, on a véritablement les compétences pour obtenir une décision sur le terrain. Cet enlisement est en train maintenant d'escalader avec des duels d'artillerie de part et d'autre, puisque peut-être que d'un côté, on a tiré 3 de ces munitions à sous-munitions, mais de l'autre côté, on est en train de ficeler, j'exagère à peine, des lance-roquettes sur des camions, et puis de tirer des volées, des salves de roquettes un petit peu dans tous les sens. Donc je ne suis pas sûr que l'autre côté fasse beaucoup plus humanitaire et beaucoup plus chirurgical, si vous me permettez l'expression. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui toutes les discussions qui ont lieu entre Londres, Paris et d'autres capitales, même Berlin. Il faudrait parler de Berlin de nouveau sur la création d'une force humanitaire pour libérer et pour acheminer l'aide humanitaire à Misrata.
Une force humanitaire. Reste une force qu'on n'a pas évoquée, l'OTAN, Alexandre Travers. Où en est l'OTAN ? Vous êtes venu la semaine dernière nous parler. On faisait état effectivement de ce risque d'enlisement qui se concrétise, qui se confirme chaque jour. Est-ce que là, il y a un problème de ressources, de moyens du côté de l'OTAN ?
Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé à cette antenne, mais on parle en ce moment beaucoup en France notamment, et puis aux États-Unis également, soi-disant d'un manque, d'une pénurie de munitions. Alors il faut savoir de quelles munitions il s'agit. Je ne pense pas qu'on ait véritablement cruellement défaut de munitions, mais il est clair que la munition est très chère. Enfin, les munitions qui sont utilisées sont essentiellement des armes guidées, sont très chères. Elles sont disponibles dans des quantités relativement limitées. Et si je prends juste le cas américain, qui est peut-être le plus important, puisque les États-Unis ont réalisé jusqu'à maintenant pratiquement 50% des frappes, il faut quand même préciser que l'armée américaine doit faire face quand même à des activités sur d'autres théâtres d'opération, et donc il n'est pas possible, en tout cas il n'est pas souhaité certainement d'engager ou de commettre des ressources surdimensionnées dans cette opération.
Je remercie Alexandre Vautravert pour votre éclairage ce soir en direct dans Forum. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Bonne soirée.
Merci à vous.
Et puis de la Libye, on passe à la Syrie pour vous parler du président Bachar el-Assad qui s'est adressé tout à l'heure, il y a quelques minutes, à son nouveau gouvernement dans une allocution transmise à la télévision. Le raïs syrien a redit que son pays était la cible d'un complot. Il a également affirmé devant ses ministres la nécessité de réformes pour renforcer le front intérieur. L'état d'urgence en vigueur depuis 1963 sera levé d'ici une semaine, a-t-il annoncé Bachar el-Assad. Dans la journée, à Banias, foyer de la contestation syrienne, des milliers de personnes avaient participé aux obsèques d'un manifestant tué la semaine dernière par les forces de sécurité. Et des milliers de personnes ont également manifesté à Dera, scandant « Le peuple veut la chute du régime », rapportent des témoins. On n'y est donc pas encore. Voilà pour la Syrie. Cuba. On n'en parle pas tous les jours de Cuba et pourtant il fut question au début du printemps arabe d'une éventuelle contamination. On avait évoqué la Chine et Cuba et puis finalement on a abandonné un petit peu cette piste. En tout cas aujourd'hui le 6e congrès du Parti communiste vient de s'ouvrir en grande pompe car il coïncide avec la célébration pour le pouvoir cubain du fiasco de la baie des cochons. C'était il y a 50 ans. Alors on s'attend à l'annonce de réformes lors de ce congrès. On s'attend également à l'émergence de personnalités, une nouvelle génération de dirigeants parce qu'évidemment, la succession des Castro se pose. Raoul Castro va bientôt fêter ses 80 ans. L'avenir de Cuba en question, donc. Jacobo Machover, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes dissident cubain en France. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon. Vous enseignez aussi à l'École de gestion de Paris, Jacobo Machover. Tout d'abord, ces réformes, alors bien sûr l'attente est là, mais est-ce que cette attente est réellement fondée? On se souvient qu'à l'arrivée de Raoul Castro, après Fidel, il y avait eu des espoirs de changement, mais dans les faits, rien n'a vraiment changé. Alors pourquoi est-ce qu'il y aura-t-il vraiment, des réformes aujourd'hui, selon vous?
Non, il y a des réformes qui ont déjà été mises en place, notamment au niveau économique. Et cela se traduit par le renvoi entre un demi-million et un million et demi de personnes dans les 5 ans à venir. Cela a déjà commencé, c'est-à-dire le régime essaye de dégraisser un petit peu l'appareil productif de l'État qui est entièrement collectivisé. Et c'est quelque chose qui pose problème parce que c'est une avancée vers une espèce de capitalisme. Bon, certains dissidents appellent ça le communisme sauvage. Et en même temps, si vous voulez, le congrès a lieu pour réaffirmer à la fois la nécessité de ces réformes, mais aussi et la volonté de poursuivre dans la voie du communisme, ce qui peut paraître contradictoire, mais pas à Cuba. Et c'est pour ça qu'il a lieu 50 ans après la déclaration du caractère socialiste de la révolution, après les combats qui eurent lieu en avril 61 à la baie des Cochons.
Jacobo Machover, ce que vous décrivez là, à la fois cette nécessité de réforme et réaffirmation du communisme, ça fait penser à la Chine.
Ça fait penser à la Chine, ça fait penser au Vietnam surtout. Et Raoul Castro, le demi-frère de Fidel, a toujours eu ces pays asiatiques qui sont demeurés communistes dans les structures politiques, mais qui ont avancé vers le capitalisme au niveau économique, a toujours eu ces deux pays comme modèle. Et ça fait un certain temps, depuis qu'il a pris effectivement les commandes à Cuba, qu'il essaye d'avancer sur cette voie. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y a un poids à la fois, un chaos économique total à Cuba, et puis un poids idéologique qui est maintenu depuis plus d'un demi-siècle, qui empêche véritablement d'avancer sur cette voie. Et puis Cuba n'a pas les ressources de la Chine, évidemment.
Mais du coup, Jacobo Machover, le dissident que vous êtes, l'observateur extérieur, il est rempli d'espoir par rapport à ce qui se passe, ou vous regardez quand même ça d'un œil très très sceptique?
Écoutez, comment voulez-vous qu'on puisse avoir un quelconque espoir avec un congrès du Parti communiste? C'est le 6e congrès, ça fait 14 ans qu'il n'y en a pas eu. Le seul but de ce congrès, c'est d'entériner les réformes de Raoul. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de pas en avant, notamment la libération d'un certain nombre de
prisonniers politiques
emprisonnés au cours des derniers mois. Mais tant que les lois resteront les mêmes, et tant qu'il n'y aura pas de véritable espace pour la liberté d'expression et pour l'apparition d'autres partis autres que le Parti communiste, c'est-à-dire une avancée vers une réelle démocratie, il n'y a aucun espoir d'arriver à la liberté de Cuba.
Il n'y a pas de personnalité, de dirigeants, de nouveaux dirigeants qui émergent, qui pourraient faire croire qu'une transition est possible, puisqu'il n'y aura pas de soulèvement populaire pour des raisons...
Non, il n'y aura pas de soulèvement populaire, ça c'est quelque chose d'exclu. Ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir une contamination de ce qui se passe dans les pays arabes, c'est une erreur d'analyse énorme, parce que Cuba est un État totalitaire et qui est basé sur la délation constante et sur le contrôle constant des populations. Il n'est pas question d'exporter des modèles, et puis d'autre part, l'ensemble de la dissidence à l'intérieur de Cuba et à l'extérieur est plaide pour un changement pacifique. Nous ne voulons pas de nouvelles révolutions, et même le terme révolution est quelque chose qui est tellement galvaudé qu'à Cuba, cela veut dire le castrisme à nouveau. Alors, il n'y a pas de personnalité qui ait émergé pour le moment après Raúl Castro. Au contraire, et c'est un gouvernement de géronte, de personnages qui ont eu leur heure de gloire au moment de la guérilla et avant 1959, et ils sont toujours là au pouvoir. Et Raoul va avoir 80 ans, Fidel en a quelques-uns de plus déjà, et tous ceux qui entourent cette fratrie
sont de
ont
cette
à peu près le même âge.
Oui.
Et personne n'a pu émerger au sein du Parti communiste ni au sein de l'armée. Au contraire, ceux qui ont levé la tête, on la leur a coupée très vite en les limogeant et en les mettant en résidence surveillée il y a 2-3 ans. Alors, du côté de la dissidence, malheureusement, elle est encore très divisée et relativement faible. Et pour le moment, il n'y a pas d'alternative au régime castriste
qui est toujours en place.
Et de se perpétuer le plus possible.
Jacobo Machover, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de Anatomie d'un désastre au sujet de la baie des cochons. On n'a pas eu le temps d'en parler, dont c'est le 50e. Votre livre en parle chez les éditions Vendemiaire. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Les jeunes libéraux radicaux étaient en congrès aujourd'hui en Argovie. Ils ont lancé leur thème de campagne en vue des fédérales. Et effectivement, à l'heure où le centre droit dégringole dans les cantons, on a eu Zurich, on a eu Lucerne, le Tessin, Bastion, PLR, s'il en est, qui a vu triompher pourtant la Lega. Eh bien, parole ce soir à cette jeune génération. Comment est-ce qu'elle vit cette perte de vitesse du centre droit et de quelle Suisse rêve-t-elle? Brenda Meder, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la présidente des jeunes libéraux radicaux suisses. Merci surtout d'accepter notre invitation en français, de faire l'effort. Je vous en remercie. Vous êtes accompagnée tout de même d'un francophone, le nouveau président des jeunes PLR Neuchâtelois, Yann-Amel Aubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Brenda Meder, organiser un congrès dans ce contexte difficile pour le PLR à 6 mois des élections fédérales, pas facile, j'imagine. Il fallait faire les gentils animateurs, essayer de motiver les troupes. C'était un peu ça votre rôle aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, c'était bien mon rôle, mais je pense que c'est un rôle nécessaire. Et moi, je reçois toujours la question, est-ce que ça vaut encore d'être jeunes libéraux radicaux? Et là, il faut clairement dire que oui, il faut faire la politique qu'on veut et il faut poursuivre les idées qu'on a et pas poursuivre les partis qui ont peut-être succès pour être élus en nulle part, mais pas de défendre les positions qu'on a.
Défendre les positions qu'on a. On a eu à plusieurs reprises votre président Fulvio Pelli. Il avoue sur nos ondes une certaine impuissance face à cette volonté des citoyens. Ils sont attirés par le populisme, ils sont attirés par la nouveauté. D'ailleurs, les verts libéraux vous coûtent cher en voix. Quand vous l'entendez, non pas sans stratégie, mais dire ben je ne peux que appliquer la stratégie qui était prévue et puis tant pis si ça marche pas. Ça vous inquiète?
Ce qui est inquiétant, bien sûr, c'est les pertes qu'on a vues à Lucerne, à Zurich. Mais il faut bien voir qu'on a des nouveaux partis qui sont encore, qui n'ont pas encore fait des fautes, disons, qui sont neufs, qui promettent des choses très bien. Mais il faut déjà voir ce qu'ils vont livrer. Et concernant la stratégie, je crois que c'est la pire idée, c'est de changer de stratégie chaque minute. Il faut encore poursuivre le cours qu'on a parce que déjà on a lancé une campagne, je crois qu'on était pas mal pour commencer l'année 2011 et là ça vaut pas de changer de stratégie juste parce qu'on avait une chute ou qu'on n'est pas bien à Lucerne. Faut quand même poursuivre le cours, c'est pas changer de stratégie chaque minute, ça sert à rien.
Yana Maël Aubert, qu'est-ce qui fonctionne pas au fond au PLR? On n'a pas évidemment une demi-heure devant nous pour lister ce qui ne parle pas aux gens, mais on a eu Benoît Couchepin sur nos ondes parce qu'on a constitué une table dans Forum pour s'interroger sur ce qui ne joue pas au centre droit. Lui, il disait ce parti doit de nouveau apprendre à parler aux gens, il ne le fait plus. Est-ce que le jeune libéral radical que vous êtes, Benoît Couchepin d'ailleurs et Neuchâtelois comme vous, entend ça soit ça, qui a quelque chose à rétablir entre l'électorat et le parti?
Écoutez, je pense que c'est intéressant que vous posiez cette question, d'autant plus à Neuchâtelois, parce que je pense que principalement à Neuchâtel, c'est exactement ce qu'on a fait suite à la fusion. On a vraiment un peu recentré notre core business, en fin de compte. On s'est rapproché beaucoup plus, je pense, des citoyens. Dans l'ensemble, on est un parti un peu plus populaire dans le sens noble du terme. On reste proche des gens, proche des PME.
Mais juste, il y en a même.
On a quand même 4 ans qu'on gagne à Neuchâtel. Donc c'est peut-être les autres cantons qui devraient plutôt copier ce qui se fait plutôt à Neuchâtel que nous, à Neuchâtel, sans mettre en question, par exemple.
Il y en a même. Hello, maire, vous entendez? Vous parlez de core business. Core business, ça parle aux électeurs, ça, quand ils vont aller voter? Core business?
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut retourner aux fondamentaux. Et un parti comme le PLR, si je prends Neuchâtel par exemple, on est un parti qui reste quand même très proche des gens, proche de leurs préoccupations. On parle pas beaucoup à Neuchâtel quand même. Par exemple, je prends notre exemple, dans des théories très intellectuelles, comme des fois le Parti libéral radical suisse a peut-être un peu tendance à le faire. Disons que c'est plutôt qu'on a de la peine à s'expliquer vraiment ce qu'on veut. Il me semble qu'à Neuchâtel, dans l'ensemble, on le fait assez bien. On gagne nos élections, on a un certain respect de la part de la population. On a eu certains déboires dans le canton de Neuchâtel, puis on a vu il y a encore 6 mois une belle victoire de Thierry Grosjean qui montre que le parti n'a pas vraiment été sanctionné cette partie-là, parce que justement on a su rester proche des gens, on a su retourner proche de véritablement notre base électorale. Alors peut-être c'est vrai que Corbinet, c'est pas vraiment ça que j'aurais dire notre base électorale, mais notre base électorale au PLR, elle est avant tout auprès des PME, et je pense qu'au niveau suisse on s'est un petit peu trop intéressé aux grandes banques, à la pharma et aux grandes entreprises suisse pour oublier vraiment la base de l'économie suisse, que les PME qui se sont senties ces dernières 10 ans un peu oubliées par notre parti, malheureusement.
Brenda Meder, le PLR qui vous fait rêver, celui du futur, en quoi est-ce qu'il est différent de celui d'aujourd'hui?
Je crois pas que le PLR ne fait pas bien son travail. Si on voit au Parlement, c'est notamment les PLR qui font par exemple les compromis. S'il y a la gauche et la droite qui ne savent pas se mettre ensemble et qui laissent tomber les solutions pour, par exemple, une AVS ou des autres assurances sociales qui sont très nécessaires pour le futur. Mais
donc c'est ce rôle de centre-droit
progressif.
ce rôle ça, de centre-droit.
Mais ça, c'est le rôle en Parlement. Mm-hmm. Là, ça vaut d'en parler aussi, parce que c'est un effort aussi que nous, on donne. Mais de l'autre côté, peut-être faut être un peu plus progressif, un peu plus agressif aussi avec les projets. C'est pourquoi les jeunes libéraux radicaux suisses, par exemple, ont pris l'initiative et on a lancé le référendum sur le prix unique du livre. C'est quand même quelque chose qu'on puisse dire, bon, les livres, c'est qui aujourd'hui, qui lit encore. Mais en fait, on touche là une question de base, une question sur la concurrence, sur que c'est pas l'État qui décide sur les prix, mais bien le consommateur ou ceux qui vendent des livres. Mmh. Et c'est plutôt un instrument comme un référendum qui fait aussi nous parler aux gens pour récolter des signatures, par exemple.
Brenda Meder, présidente des Jeunes Libéraux Radicaux, et Yann Amael Aubert, vous étiez avec nous. On précisera aussi que vous avez, lors de ce congrès, donc affirmé votre fibre libérale. Plus de jeunes libéraux radicaux, plus de liberté, c'était votre slogan. Pardon. Vous avez proposé que l'État ne subventionne pas les énergies renouvelables, que ça se fasse par le biais du marché. On reconnaît votre fibre libérale. Je vous remercie tous les deux d'être venus nous faire le point sur vos désirs d'avenir pour le PLR. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Et avant d'ouvrir notre journal des sports avec Romain Rosang qui me rejoint à l'instant dans notre studio, je vous propose de parler d'un incontournable du football, ou plutôt des incontournables qui font vibrer. Mais alors là, on a une grande échelle, c'est plus à l'échelle suisse, ce sont des millions de téléspectateurs dans le monde qui suivent ces événements-là, et le week-end en est riche. En ce moment même, en Angleterre, le derby Manchester United contre Manchester City, avec toute la dramaturgie qui l'entoure, se joue à Wembley. C'est la demi-finale de la Coupe, donc les pubs sont pleins à craquer. Mais c'est surtout ce soir, cette affiche, elle est la plus regardée au monde après la finale du mondial. Real Madrid-Barcelone, c'est le fameux Classico. Écoute ce sifflet ce soir à 22h, c'est un match retour entre les deux leaders du championnat espagnol. Alors pourquoi ces affiches font autant vibrer, génèrent autant de sous? Est-ce qu'en période de récession économique, le football est plus que jamais l'opium du peuple? Raphaël Despoli pour nous répondre. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie de nous rejoindre. Vous êtes chercheur, maître assistant à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Vous êtes auteur de plusieurs livres et d'études sur le football. Le football, le pub du pop, c'était une sorte de mode dans les années 80, surtout après le drame du Heysel. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour tirer une corrélation entre pauvreté socio-économique et succès du football. Ça a toujours cours, ça, aujourd'hui.
Ben, disons, sport du peuple, c'est clair. C'est le sport le plus populaire au monde. Il traverse les classes sociales, si encore aujourd'hui on peut parler de classes sociales. Il fait consommer énormément et on consomme des images, des gadgets, des produits dérivés. Et c'est surtout un sport global, un marché globalisé, largement déterritorialisé ou alors reterritorialisé à une échelle globale, et les exemples des matchs que vous décriviez le montrent très bien, tout le monde s'y intéresse.
Mais Raphaël Despoli, il y a quelque chose qui paraît un petit peu antagoniste, paradoxal, c'est effectivement cet énorme business que représente le football au niveau mondial, avec toutes les dérives, d'ailleurs les scandales dont on entend parler, les tricheries, etc. Et puis le peuple, entre guillemets, cette dimension populaire, le peuple reste pauvre, alors que ce football s'enrichit, et pourtant ça creuse pas le fossé. Comment on explique ça?
Mais je pense qu'on vit dans une société de la consommation, on le dit depuis les années 60-70, et le foot, en tant que dernier règne du capitalisme, on l'a dit, consacre cette dimension consommatoire qui touche tout le monde. C'est ce que je disais avant, que ce soit un ouvrier en cadre d'entreprise, on consomme, on vit pour consommer. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce système, et le football consacre finalement cette consommation de tout et n'importe quoi.
Oui, de l'ouvrier au patron d'entreprise, Raphaël Despoli. On a le sentiment effectivement que le foot, enfin c'est pas qu'un sentiment, c'est la dimension fédératrice du foot est évidente. Mais après, il y a d'autres remèdes qui viennent nourrir, je parlais de dramaturgie, il y a des mythes. Si on prend le Classico espagnol ce soir, Real contre Barça, c'est aussi un antagonisme politique entre la Catalogne qui veut être indépendante et puis Madrid. C'est assez incroyable comment ça conditionne aussi toute une position sociale finalement.
Oui, on dit souvent au miroir de la société, je pense que c'est toujours vrai en partie, en tout cas pour les personnes espagnoles qui vivent toujours cette opposition entre un pouvoir centralisateur plutôt représenté par le Real de Madrid et des envies d'autonomie, notamment de la Catalogne aussi ailleurs. que représenterait plutôt le FC Barcelone. En même temps, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ça sert aussi finalement de levier pour transmettre une certaine vision du monde et à des fins marchands aussi liées à des styles de vie. Aujourd'hui, le Real symbolise avant toute chose, je pense, le bling-bling, le glamour par ses vedettes que sont Cristiano Ronaldo, et je pense pas que quelqu'un aujourd'hui dans des pays asiatiques ou même en Suisse qui supporte le Real, il le supporte pas parce qu'il est symbole du pouvoir central espagnol, il le supporte surtout parce que il a cette image de luxe, de glamour, etc.
Je remercie Raphaël et Poli de nous avoir commenté ces affiches. Le week-end en est riche, il y a un grand derby anglais, United City, et puis effectivement ce classico ce soir. Vous allez le suivre le match, ce classico à 22h?
Oui, je vais essayer de suivre. En tant que sociologue, en tout cas chercheur en sciences sociales, il faut toujours être au plus près de l'actualité.
Vous avez quand même un pronostic, 5-0, c'était l'aller. Real se fait atomiser, le retour, ce sera plus équilibré?
Oui, je pense, effectivement, surtout qu'on joue à Madrid, donc le Real se doit de se racheter.
Raphaël et Pouli, je vous remercie, bonne soirée.
Merci.
Romain Rosang, on passe au volleyball, puisque le suspense est total en finale du championnat de Suisse masculin.
Oui, Neffel, ces Chinois s'affrontent depuis 17h en terre glaronnaise. Il y a 2 victoires partout entre les deux équipes. Et dans ce 5e acte, Neffel et Chinois ont remporté chacun un set. Alain Thévaux, vous suivez cette finale, où en est-on actuellement?
Eh bien écoutez, le 3e set vient de se terminer, set très disputé, et malheureusement pour les Genevois, ce sont les Glaronnais qui l'ont emporté sur le score de 25-23, donc 2-7-1 pour Neffels. Tout avait bien commencé pour Chinois qui dans un premier temps menait 25-17 en 23 minutes, qui avait un capital confiance assez conséquent quand même dans cette finale, surtout Chinois qui dans le premier set avait pu faire la différence par son entraîneur joueur Dritan Tchouko avec 7 points décisifs et surtout le contre décisif sur la balle de set conclu au filet par Tyler Williams l'américain. Dans le deuxième set, eh bien Neffels s'est montré beaucoup plus agressif avec 4 contres réussis contre aucun dans la première manche. A relevé aussi le Tchèque Polak redoutable au service alors qu'il avait la main qui tremblait lors de la première manche, et c'est ce qui a vraiment bien remis Neffels dans cette finale. Le troisième set a été assez disputé, très disputé, surtout l'équipe de Neffels qui menait quasiment tout le temps de 2 ou 3 points, mais sur le fil l'équipe de Chinois a pu égaliser à 22 partout avant finalement de céder, et les formations qui se retrouvent pour la 4e manche, surtout Chinois se trouve un peu dos au mur, il avait déjà lors du 4e acte sauvé une balle de match, et bien là il se retrouve dans une situation compromise, mais en volleyball rien n'est terminé avant bien sûr le point décisif.
Puis à Chinois, un homme a vécu les 16, peut-être 17 consécrations du club. Il s'agit du président Michel Giorgio qui sera au terme de la finale l'invité de Patrick Delletro dans Sport Première.
En football, Suisse, Romain Sion défie Zurich depuis 17h45 à Tourbillon dans le cadre de la 28e journée de Super League.
Enjeu de cette rencontre, une place en Ligue des Champions pour les Zurichois et une place en Europa League pour les Valaisans. À la mi-temps, Hervé Borsier, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'avantage.
Non, c'est toujours 0-0, donc pas d'ouverture à la marque après 45 minutes ici. Un score d'ailleurs plutôt logique. Il y a eu 2 occasions de chaque côté. Un FC Sion, si vous me passez l'expression, plutôt diesel, qui a eu du mal à démarrer dans cette partie, qui a été dominée d'ailleurs sur sa pelouse par le FC Zurich, qui a placé la première banderie après 4 minutes, un tir de Schönbechler. Et puis Zurich qui met encore l'avantage pendant un bon quart d'heure, et puis le FC Sion petit à petit se construit, arrive finalement à construire de belles actions, et à la 24e minute, eh bien Prijovic décoche un tir, c'était dans la surface de réparation, un bon tir d'ailleurs, mais qui était repoussé par le français Beda. C'était la très bonne occasion pour le FC Sion, et puis Yoda à la 42e d'un tir croisé aurait pu battre aussi Léonie. mais peut-être que son tir n'était pas assez appuyé. Notez encore que le FC Zurich, lui, a eu une très très bonne occasion, la meilleure sans doute pour le club zurichois, avec Philippe Corr et un arrêt réflexe véritablement, quelque peu même chanceux, quasi à bout portant de Andries Vanitz. On connaît l'excellence du gardien du FC Sion et on sait aussi que le FC Sion a toujours la meilleure défense du championnat. Je vous signale d'ailleurs que le FC Sion n'a pas battu Zurich depuis le 18 novembre 2000. 25 matchs donc sans succès pour le FC Sion qui pour l'instant peut encore battre le FC Zurich. Évidemment, tout dépendra de la deuxième mi-temps. Un FC Sion où seuls deux joueurs ont changé. Si on reprend la formation qui s'est imposée à Lucerne sur le score de 1-0. Très belle victoire d'ailleurs, mais il faut que le FC Sion puisse maintenant s'imposer ici face au FC Zurich, qui ferait un grand pas en avant d'ailleurs pour réduire le nombre de points face au club zurichois.
Dans l'autre match du jour, Young Boys se mène à la mi-temps 2-0 contre Bellinzone. De son côté, Neuchâtel-Xamax accueille Lucerne demain à 16h. Et c'est le Blick, et le matin, qui l'annonce aujourd'hui. Le club neuchâtelois devrait être acheté par des investisseurs tchétchènes. Une information, Hervé, qui fait également beaucoup parler dans les gradins de Tourbillon. Qu'en est-il de cette nouvelle piste ?
Eh bien, écoutez, le nouvel investisseur serait Bulat Chagaev, l'un des co-sponsors du club de Terek Grozny. Un autre proche du club, l'ancien joueur André Roudakov, passé notamment par Bulle et par Fribourg dans les années 90, se serait d'ailleurs adressé aux joueurs de Neuchâtel-Xamax jeudi dernier. Ils enrôleraient, si c'était le cas, s'ils étaient ses repreneurs, comme entraîneur Christian Gross. En tous les cas, c'est un projet, l'ancien coach du FC Bâle. Et puis du côté xamaxien, évidemment, on ne confirme rien puisque le président du club, Silvio Bernasconi, ne s'exprimera pas avant l'Assemblée Générale du 12 mai.
Assemblée qui, on vous le rappelle, aura lieu le 12 mai. En Challenge League, Stade Nyonnais a créé une grosse surprise aujourd'hui au Liechtenstein. Les Vaudois se sont imposés 5-1 face à Vaduz, qui compte désormais 6 points de retard sur le leader Lugano. Et puis deux autres matchs se disputent actuellement. Pour l'instant, c'est 1-0 pour Ville contre Delémont. Et Yverdon s'incline pour l'instant face à Volun 1-2. En hockey sur glace, la Suisse affronte en ce moment la République tchèque en match amical à Litvinov. Après un tiers, les Suisses sont menés 1-0.
En tennis, après deux années passées au purgatoire de la zone Europe-Afrique, l'équipe de Suisse de Fed Cup est en passe de retrouver sa place dans le groupe mondial 2.
Sur la terre battue de Lugano, les Suisses mènent en effet 2-0 face à la Suède. La Vaudoise Timea Bachinski et la Baloise Patty Schneider ont toutes deux remporté leur simple. Elles devront encore décrocher une victoire demain pour assurer leur promotion.
En Formule 1, Sébastien Vettel s'élancera en pole position demain du Grand Prix de Chine.
Volant de sa Red Bull, l'Allemand a dominé pour la quatrième fois consécutive la séance de qualification. Vainqueur des deux premières courses de la saison, il a facilement devancé les McLaren Mercedes des Britanniques Jenson Button, deuxième, et Lewis Hamilton, troisième. Le compte-rendu de Mike Perez.
Sébastien Vettel est décidément intouchable en ce début de saison. On voit mal ce qui pourrait empêcher le champion du monde en titre de signer un troisième succès cette année en autant de courses. 7 dixièmes d'avance sur Jenson Button, son dauphin du jour, c'est énorme une fois encore. Personne n'est en mesure de barrer la route du jeune pilote allemand, pas même son coéquipier. Car Mark Webber ne tient plus la comparaison. L'Australien est littéralement déclassé en cette année 2011. Il est passé complètement à côté de son sujet aujourd'hui. Éliminé dès le début de la séance de qualification, largué, il ne sera que 18e sur la grille de départ. Des surprises, il y en a eu. Les deux Toro Rosso de Sébastien Buemi et Jaime Alguersuari se sont glissés dans le top 10. Il y avait donc un magnifique coup à jouer pour le Vaudois qui a malheureusement manqué le coche dans la dernière partie de la séance. 9e place tout de même pour Buemi. Rentrer dans les points reste plus que jamais son objectif.
Et le départ du Grand Prix de Chine sera donné demain à 9h du matin, heure suisse.
On passe à l'athlétisme. Victor Rötlin disputera demain à Londres son premier marathon de l'année, le 21e pourtant de sa carrière.
L'Obvaldien reste sur un échec sur cette distance puisqu'il avait dû abandonner à New York. Mais depuis, le champion d'Europe a retrouvé la forme et sa double embolie pulmonaire subie en 2009 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Victor Rötlin, dont le record est toujours de 2h07.23, s'élancera demain avec beaucoup d'ambition.
Für mich ist wichtig, dass ich jetzt nochmals einen meiner schnellsten Marathons laufen kann. Ich habe geschaut, von meinen 20 Marathons bin ich 3 unter 2 Stunden 10 gerannt. Und es wäre schön, wenn ich noch einmal eine Zeit unter 2:10 laufen kann. Und klar bin ich natürlich glücklicher, wenn es in der Nähe von 2:07.23 ist und nicht bei 2:09.56. Aber ich denke, wenn ich nochmals unter 2 Stunden 10 laufen kann, ist das auch ein gutes Signal hinsichtlich Olympia 2012. Jetzt die Qualifikationsperiode beginnt für Olympia. Ich könnte mich schon qualifizieren, aber das ist jetzt nicht ein Testlauf, weil die Strecke ist eine andere und auch die Bedingungen werden dann im August 2012 völlig anders sein, als sie jetzt im April sind.
Le coup d'envoi du marathon de Londres sera donné demain à 10h45.
En cyclisme, enfin, Romain Rosangle, la formation Lampre, c'est comme ça qu'on dit, est soupçonnée d'avoir mis en place un dopage collectif.
Oui, c'est la conclusion à laquelle arrive la justice italienne qui a clos son enquête, selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Le groupe dirigé par Beppe Saroni pourrait d'ailleurs changer d'encadrement avant le départ du Giro le 7 mai. 14 coureurs, membres de l'équipe en 2008 et 2009, sont visés, parmi eux l'ancien champion du monde d'Alessandro Balan, aujourd'hui chez BMC, et le vainqueur du Tour d'Italie 2004, Damiano Cunego.
Merci Romain Rosang, c'est l'heure de l'actualité francophone sur Forum.
Radio Suisse Romande, la première.
Ici Radio-Canada.
France Inter. La première. Restons curieux.
Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des radios francophones publiques. Je retrouve à Paris pour France Inter Clara Boudou, à Bruxelles pour la RTBF Roberto Denis et à Lausanne pour la radio suisse romande Philippe Nanzer. Je m'appelle Joanne Arcan et je vous parle de Radio-Canada à Montréal. Voyons d'abord nos unes. En France, la loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public est entrée en vigueur cette semaine. La France est le premier pays européen à procéder à cette interdiction généralisée, Clara Baudou.
Oui, et depuis lundi, les femmes qui portent le niqab ou la burqa dans la rue risquent donc une amende qui peut atteindre 150 euros, à laquelle peut s'ajouter ou se substituer un stage de citoyenneté. Alors en fait, cette loi ne concernerait que 2000 femmes en France, selon des estimations, et elle fait polémique depuis des mois, privation de liberté pour certains ou stigmatisation de l'islam, tandis que les policiers, eux, la jugent difficilement applicable. Philippe Capon est secrétaire général du syndicat de police, UNSA.
Ça va forcément poser problème quand on va tomber sur une personne qui voudra pas enlever son voile. Donc après, il faut l'emmener au commissariat, aviser le procureur, il y a tout un tas de démarches qui vont être spécifiques à faire. Si c'est pour faire un contrôle et créer une émeute, il y aura forcément un problème. Et les policiers n'ont pas non plus que ça, entre guillemets, à faire. Il faut vraiment que le contrôle fasse l'objet de faits délictueux qui feront que bon, on sera obligé de procéder au contrôle.
Et cette loi prévoit aussi qu'un homme obligeant une femme à se voiler est passible d'un an de prison et de 30 000 euros d'amende. Cette loi entre en vigueur alors que la laïcité est un des thèmes du débat politique en France à un an de l'élection présidentielle.
En Suisse, Philippe Nanzer, démocratie directe oblige, le peuple votera bientôt pour savoir, comme le demande une initiative populaire, s'il doit avoir le dernier mot en matière de traités internationaux.
Alors aujourd'hui, c'est le Parlement fédéral qui donne son accord sur les traités internationaux. Ce n'est pas suffisamment démocratique, estime l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, l'ASINE, une organisation souverainiste proche de l'UDC, la droite dure. Pour elle, même si le peuple fait fausse route, c'est à lui de décider de son destin sur le plan international, Hans Fehr, président de l'ASINE et conseiller national UDC.
Le peuple n'a pas toujours raison, mais le peuple suisse, dans la démocratie directe, doit avoir toujours le dernier mot.
En fait, avec cette initiative, l'ASINE espère bien bloquer les velléités européistes d'une grande partie de la classe politique helvétique dans un pays où, selon certains sondages, les Suisses sont de moins en moins nombreux à vouloir entrer dans l'Union européenne.
Au Canada, la campagne électorale bat son plein. Un des temps forts de cette campagne, les débats télévisés ont eu lieu cette semaine. Ils n'ont fait aucun véritable gagnant ou perdant. Les questions des citoyens, autant en français qu'en anglais, ont permis aux quatre principaux candidats à cette élection de livrer leur message sous des thèmes différents selon qu'ils s'adressaient aux francophones ou aux anglophones. Des débats, selon les analystes, plus médiatiques que politiques, créant même des stars d'un jour. L'une des concitoyennes choisies pour poser une question au chef, une femme dans la cinquantaine, sans emploi, a connu son heure de gloire lorsque le chef libéral Michael Ignatieff s'est adressé directement à elle à plusieurs reprises dans ses réponses. Le lendemain, tous les médias se l'arrachaient. Reste à savoir si un employeur s'intéressera vraiment à elle. Et l'actualité marquante de cette semaine en Belgique a été la confession télévisée de l'ancien évêque de Bruges.
Roger Van Gelu a dû démissionner de son poste à la suite d'actes de pédophilie sur son neveu. À la télévision, il a reconnu avoir abusé également d'un autre neveu, mais à la grande surprise de ceux qui l'ont vu et entendu, il ne se considère pas comme un pédophile, pas comme un abuseur d'enfants. Se rendait-il compte de ce que ces actes signifiaient ? Écoutez-le.
Oui, évidemment, je savais que ce n'était pas bien, mais pour moi, c'était juste un peu d'intimité.
L'ancien évêque de Bruges préfère d'ailleurs parler de petits jeux plutôt que de réels attouchements. Tout le monde est effaré en Belgique par les propos de l'évêque pédophile. Le Premier ministre a dit que Van Gelu dépassait les limites de l'acceptable. De son côté, le Vatican dit suivre attentivement la situation.
Et c'était nos unes. Dans bien des régions du globe, tous ne sont pas égaux quand il s'agit d'avoir accès à un médecin. Tant et si bien que plusieurs gouvernements ont trouvé des moyens pour inciter les médecins à aller s'établir en dehors des grands centres. En France, Clara, plus de 2 millions de personnes vivent dans des zones déficitaires en termes de présence médicale.
Oui, et il ne s'agit pas seulement des zones rurales, mais aussi des zones urbaines dites sensibles, situées en périphérie des grandes villes françaises. Alors, comment attirer les médecins dans ces zones ? Eh bien, il y a d'abord les mesures financières, bien sûr. En France, il existe des primes ou des allègements fiscaux pour les praticiens qui acceptent d'exercer 3 ans dans une zone de pénurie. Autre possibilité, des bourses pour les étudiants, en échange desquelles ils s'engagent à exercer dans ces zones à la fin de leur cursus. Mais ces mesures coûtent cher pour un résultat peu convaincant. Et puis, au-delà des mesures financières, il peut aussi s'agir de rendre ces zones plus attractives, notamment en créant des maisons de santé, des structures qui permettent à plusieurs praticiens de s'installer ensemble, donc dans de meilleures conditions. Mais le grand débat en fait chez nous est de savoir s'il faut seulement inciter les médecins à s'installer dans ces zones, c'est ce que prônent plutôt le gouvernement et les médecins eux-mêmes, ou s'il faut carrément les contraindre avec une politique plus coercitive comme le prône l'opposition.
Mais en France, Clara, dans ces zones de désertification médicale, on ne cherche pas qu'à attirer les jeunes, on veut aussi garder les vieux.
Et oui, le gouvernement veut inciter les médecins qui arrivent à la retraite à poursuivre leur activité quand même. Depuis quelques années en France, on peut cumuler les revenus d'une activité et d'une pension sans plafond, ce qui a déjà incité beaucoup d'entre eux à poursuivre leur activité. Mais au-delà de l'incitation financière, il y a aussi tous ceux qui le font par citoyenneté, disent-ils, puisqu'ils ne trouvent personne pour les remplacer.
Et en Belgique, Roberto ?
En Belgique, le problème se pose essentiellement dans le sud du pays, dans la province de Luxembourg, où la densité de la population est la plus faible. Des initiatives se font jour pour inciter et aider les médecins à s'installer dans ces contrées, par exemple avec des aides financières. Mais le constat est là. En province de Luxembourg, depuis plusieurs années, le nombre de médecins généralistes et spécialistes est non seulement faible, mais il diminue.
Malheureusement, un petit problème technique vient de survenir. Il est 18h52. Vous écoutez Forum, c'est la revue de l'actualité francophone. On tente de vous la retrouver, cette revue. Alors, je vais en profiter pour faire un petit peu de promotion, du coup, vous dire que demain, Forum sera en direct de Genève à l'occasion de l'élection du conseil administratif de la ville. Philippe Rova et ses invités pour débattre des résultats des 18h. Quant à moi, je réglerai l'actualité depuis Lausanne. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Sport Première. Vous pourrez suivre la fin de la rencontre entre Zurich et Sion. On l'a évoqué tout à l'heure avec Romain Ozang. Retour aussi sur le dernier match du championnat suisse de volleyball entre Neffels et Chenois. On va faire un petit détour par la route.
Infotrafic RSR.
Eh bien, pour vous dire que tout se passe bien sur les routes de Suisse romande, au chapitre des travaux, nous vous rappelons la fermeture de la voie de sortie de la jonction de Saint-Maurice. C'est sur l'autoroute A9 en direction de Martigny. Ce chantier devrait se terminer jeudi en fin d'après-midi. Et comme je vous le disais, rendez-vous avec Sport Première après les informations de 19h. Vous dire que dans ce Sport Première, Patrick Delettreau et Jean-Marc Rossier vous proposeront un voyage en Amérique du Nord en compagnie de 4 sportifs suisses exilés. Et puis à 2 semaines des 20 km de Lausanne, nous tenterons de comprendre pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer la course à pied. Quelques conseils également pour bien s'y prendre en matière d'entraînement ou de choix de matériel. Et ben voilà, ça a été une grande promotion de de l'émission qui suit Sport Première, comme tous les soirs à 19h. Je vous propose, qu'est-ce que je vous propose? La météo ou un petit peu d'actualité? Un petit peu d'actualité francophone. Je vous prie de nous excuser pour ce problème.
De médecine. Cela dit, le nombre limité d'étudiants admis aux études de médecine n'arrange sans doute pas les choses, de même que le nombre de médecins autorisés à exercer. Le gouvernement fédéral devrait augmenter ce chiffre. Il reste à voir si cela suffira. Une étude a montré que l'âge moyen des médecins pratiquants ne cesse de monter. Il est au-dessus de 55 ans, avec comme conséquence une accélération du nombre de médecins partant à la retraite.
Les Suisses non plus, Philippe Nanzer, ne sont pas égaux face à l'accès aux prestations médicales, sans qu'ils vivent dans les zones urbaines ou dans les régions rurales périphériques.
Si au début des années 90, certains milieux politiques parlaient d'une manière générale de surpopulation médicale, eh bien aujourd'hui, avec le vieillissement des Helvètes, on constate une véritable pénurie de médecins, pénurie qui défavorise en premier les régions périphériques. Cependant, cet écart ville-campagne va en s'atténuant. Entre 2000 et 2008, selon la Fédération suisse des médecins, la densité médicale a augmenté partout dans le pays, sauf dans le canton d'Uri, en Suisse centrale, où elle a diminué, et cette augmentation a été plus forte, parfois une progression de 20% dans certains cantons qui étaient en dessous de cette moyenne suisse.
Et est-ce que ça veut dire que la Suisse sort du tunnel?
Alors, ça veut dire qu'on restreint l'écart ville-campagne, mais le véritable problème subsiste, à savoir une carence générale de médecins. Rien que dans le secteur hospitalier, selon H+, l'organisation qui chapeaute les hôpitaux suisses, le manque de médecins était tel entre 2006 et 2008 qu'il a fallu recruter près de 1200 médecins à l'étranger. Et comme je vous le disais, avec le vieillissement de la population, cette tendance ne va pas vers le mieux, une carence qui pourrait encore une fois défavoriser les zones rurales.
Près de 5 millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille, une pénurie deux fois plus sévère en région. Au Québec, malgré le nombre croissant d'inscriptions dans les facultés de médecine depuis 2003 et un recours accru aux professionnels formés à l'étranger, on estime qu'on devrait encore en souffrir pendant 5 ans. Alors, pour y remédier, le gouvernement a mis au point un certain nombre de mesures, comme les PREM, des plans régionaux d'effectifs médicaux, autant en omnipratique qu'en médecine spécialisée. Mais plusieurs jugent le système trop contraignant. Ils craignent que cela puisse inciter des médecins à quitter le Québec ou à travailler dans le secteur privé. Au Québec, par exemple, on offre un nombre assez élevé de postes en médecine de famille, alors que les deux tiers des finissants recherchent surtout des postes en médecine spécialisée. Donc, s'ils veulent absolument être spécialistes et qu'il n'y a pas de poste disponible, ils vont chercher une formation ailleurs qu'au Québec.
Donc, peu de chances pour les spécialistes de travailler dans les grandes villes universitaires.
Oui, c'est ça, mais pas nécessairement très loin non plus. Par exemple, cette année, des 237 postes de médecins spécialistes créés, 57% le seront dans des régions périphériques de Montréal, là où l'on remarque la plus forte augmentation démographique. Aux Comores, comme dans la plupart des pays africains, le monde rural rencontre beaucoup de difficultés pour consulter un médecin. Les patients sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour se faire soigner. Alors, Ahmed Abdallah Nguini est rédacteur en chef de la Gazette des Comores. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous un peu la situation.
Il faut comprendre que le pays est divisé en districts de santé et chaque district dispose de son centre hospitalier. Mais ces hôpitaux manquent de tout. Le plus souvent, un seul médecin généraliste exerce dans ces centres qui prennent en charge des milliers d'habitants. Il faut aussi préciser que ce sont les centres de santé les plus nantis hein, qui disposent d'un praticien, car pour enrôler un médecin dans ces hôpitaux qui se trouvent dans des dizaines de kilomètres de la capitale, cela relève de la chance. Dans cette situation, il ne faut même pas penser à un spécialiste, car aucun d'entre eux ne bouge de la capitale.
Et pourquoi donc?
D'abord, le retard de versement des salaires des agents de l'État. Les médecins hésitent d'aller s'installer dans une région lointaine sans revenu régulier. Du coup, ils préfèrent travailler dans la capitale pour ouvrir en parallèle un cabinet privé afin d'arrondir les fins du mois. L'autre facteur hein, qui explique ce refus des médecins d'exercer loin de la capitale, c'est le manque de matériel. Mmh. Donc, ces médecins se découragent rapidement aux grandes dames de la population qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour se faire soigner.
Alors, Ahmed Abdallah, dans certaines régions, on a contourné ce problème-là. Là, on a développé une politique de recrutement.
Oui, absolument. On propose des salaires en dehors de la rémunération de l'État Et grâce à la diaspora, les localités sont équipées en matériel dernier cri. Mais il faut le souligner, ces matériels restent souvent sans praticien.
Ahmed Abdallah Ngueni à Moroni, aux Comores. Merci beaucoup.
Yep.
Radio Suisse Romande, la première.
Ici Radio-Canada.
18h59, vous écoutez Forum. Tout de suite, la météo d'Éric Fauchère. La journée.
La journée a été largement ensoleillée sur notre pays. Une haute pression stagne en effet au-dessus de l'Europe et stabilise le temps. Ces conditions de grand soleil perdureront encore demain et une bonne partie de la semaine prochaine. Cette nuit sera dégagée et nul doute que le mercure descendra assez bas, occasionnant quelques gelées au sol demain avant le lever du jour. La journée sera ensuite ensoleillée allègrement partout et nous retrouverons nos traditionnels cumulus de beau temps sur les reliefs l'après-midi. Le mercure avoisinera les 2 à 5 degrés au lever du jour et les maxima de l'après-midi toucheront les 17 à 20. 0 degré à 2300 mètres.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111.
Il est 19h à l'écoute de la première. Bonne soirée.